2 minutes pour ce qui est de l'Europe, ou enfin, selon le décalage, bien sûr. Bienvenue sur la planète rockick.com. Au bout du fil, on est avec Gérard Pince. Monsieur Pince, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. On parle encore de Ségolène Royal, la présidentielle. Comment ça se passe? On veut des détails croustillants. Les détails croustillants, l'opinion de Gérard Pince, ce sera intéressant.
Ben écoutez, je crois que vous avez été un petit peu aux premières loges,
ben oui,
en tant que Canadien, avec ces déclarations farfelues qu'elle a faites là-bas. J'imagine que nos amis canadiens sont un peu partagés entre le fou rire et la consternation. Mais ça n'était qu'un début. Ça n'était qu'un début, parce que, à mon avis, et c'est l'avis un peu de beaucoup de gens, elle a complètement disjoncté.
Elle raconte
n'importe quoi. Là, ça devient grave. Elle a été dire, par exemple, qu'une femme sur trois était tuée par son conjoint. Elle s'est complètement trompée, évidemment. Et elle vient tout juste de déclarer aux Antilles, « Je suis une femme debout, on va tout casser. » Voyez un petit peu. Non, mais... ça n'arrête pas, c'est tous les jours qu'il y a une nouvelle bourde. Et alors, je me disais, mais si une personne tenait de tels propos dans une entreprise, que ce soit une entreprise française ou une entreprise canadienne, on appellerait les pompiers et on l'expédierait en urgence à la médecine du travail. Hein, moi, j'ai l'impression qu'elle aspire à la présidence, mais sa place serait plutôt dans une maison de repos, au point où elle en est. Alors, elle nous a sorti aussi quelque chose de tout à fait étonnant, à savoir qu'elle serait la présidente de la France métissée. Alors là, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. On dirait que c'est une idée fixe, mais moi, j'ai jamais entendu un dirigeant africain dire à son peuple qu'on allait le métisser, parce qu'il aurait été renversé. Donc, vous voyez un petit peu dans quel ridicule on est en train de sombrer. Et puis dans les autres secteurs pour les autres candidats, à vrai dire, ça ne vaut guère mieux, si bien que tous les analystes concluent en ce moment un peu ce que je vous disais la dernière fois d'ailleurs,
oui.
À savoir qu'on a des candidats qui ne font pas du tout qui n'ont pas du tout l'envergure nécessaire. Ce sont pas des candidats qui se peuvent aspirer à la présidence de la République, c'est évident. Et donc ça laisse quand même planer un climat qui n'est pas excellent, avec beaucoup de ragots, beaucoup de boules puantes, comme on dit, et alors que les débats de fond ne sont pas du tout abordés.
Tout à fait. Savez-vous quoi? Ici, même, moi, ce qui me fait surtout sourciller, c'est de savoir que Ségolène Royal, M. Pince, n'a jamais mis les pieds de sa vie au Québec.
Ah oui, c'est bien possible. C'est bien possible.
C'est plus que bien possible. Elle ne l'a jamais fait. Et ça me fait rire. En plus, est-ce que... OK. Je vous demande votre opinion. Est-ce que vous, M. Pince, auriez donné votre point de vue sur l'indépendance du Québec si vous aviez été un simple candidat à la course à la présidentielle?
Certainement pas, parce que c'est tout à fait ridicule d'aller s'ingérer dans la politique intérieure d'un pays, et surtout d'un pays ami comme le Canada. On n'a pas à faire, je pense, nous en tant que Français, même si nous avons en tant que Français une sorte de sympathie particulière pour nos cousins du Québec, parce que nous parlons la même langue, etc. Mais enfin, ça n'a pas de sens d'aller s'ingérer au nom de cette communauté de langage dans la politique du Canada. On ne va pas s'ingérer dans la politique de la Belgique parce que les Wallons parlent français. On ne va pas non plus s'ingérer dans la politique de la Suisse sous prétexte qu'une partie de la population parle français. C'est complètement absurde. Je ne sais pas du tout ce qui lui a pris, mais je pense que ça rejoint, vous savez, une sorte de gauchisme qui anti-américain et anti-anglo-saxon. Je crois que c'est ça un petit peu l'idée qui est sous-jacente à tout cela.
Non.
C'est absolument absurde. D'ailleurs, moi, j'avais tout à fait, en tant que simple citoyen, tout à fait désapprouvé en son temps les propos de Gaulle. On n'a pas du tout à se mêler des affaires intérieures d'un pays ami comme le Canada. Okay. Vous avez les Canadiens qui sont morts en Normandie ou qui sont morts à Dieppe. Ils étaient aussi bien anglophones que francophones. Donc, on n'a pas à entrer dans de ce genre de considération.
Monsieur Pince, là, je sens un homme macho qui me parle au bout du fil. Vous voulez pas, parce que c'est une femme, que Ségolène Royal devienne la première femme présidente de la France. Allez, dites-le, là, avouez.
Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je ne suis pas du tout machiste, mais franchement, elle dit un peu n'importe quoi et en plus des choses qui sont détestables, qui ne sont extrêmement non seulement impensées, mais en même temps qui sont dangereuses pour l'avenir. Je vous citais cette histoire de France métissée. Qu'est-ce que ça veut dire une telle histoire? Est-ce qu'on entend parler dans un pays un président ou un chef d'État disant à sa population je veux que vous soyez métissé? Enfin, c'est pas sérieux quand même. C'est inadmissible d'entendre des choses pareilles.
Moi, ça me fait. Moi, surtout, ce qui me fait sourire, c'est la dernière gaffe qu'elle a fait. Est-ce que je peux appeler ça une gaffe, Monsieur Pince, concernant l'humoriste qui lui a lâché un coup de fil et qu'elle a mentionné, c'est comme si les Français désiraient que la Corse devienne indépendante. Comment ça a été repris de votre côté?
Ça prouve aussi une improvisation qui n'est pas digne de quelqu'un qui aspire à la présidence de la République, parce que des canulars de ce type, c'est très facile d'en faire, et il y en a déjà eu dans le passé. Mais en général, les gens qui prétendent à la candidature suprême, ils savent s'entourer de précautions pour éviter de tomber dans de tels pièges. Mais de toute façon, même si ça n'avait pas été un piège, ce qui est choquant et ce qui choque beaucoup de Français, et pas seulement les Corses, c'est qu'elles disent au chef d'État d'un pays étranger, ami mais quand même étranger, oh, finalement, si les Corses veulent leur indépendance, eh bien moi je serais d'accord et en riant. C'est pas un sujet risible, et vous comprenez évidemment l'indignation de nos compatriotes corses qui sont traités comme des moins que rien. Enfin, c'est incroyable, vous savez, c'est vraiment incroyable. Ça, j'avais dit il y a longtemps qu'on verrait de drôles de choses dans cette élection, mais effectivement on y est maintenant.
On a l'impression qu'elle donne pratiquement toute la chance, qu'elle est en train de servir la table pratiquement à Nicolas Sarkozy. Je sais pas.
Écoutez, on en arrive à se poser la question. Moi, vous savez, il y a le risque que ces bourdes successives la rendent plutôt sympathique, parce que vous avez une population qui a été tellement crétinisée par l'éducation nationale, par les médias, etc., que finalement quelqu'un qui est un peu à contre-courant, qui est un peu ubuesque, ça peut lui amener des concours, ça peut lui amener des renforts. En tout cas, il est à peu près sûr qu'elle aura toutes les voix de l'immigration. Avec ses propos sur la France métissée, elle aura effectivement les voix des banlieues, les voix des minorités visibles, etc. Donc je serais bien en peine de faire des pronostics. Dans un pays normal, avec des gens normalement éduqués, normalement conscients, de telles bourdes lui seraient fatales. Mais dans la situation intellectuelle de la France actuelle, ce n'est pas sûr. Ça peut même, au contraire, avoir un effet positif. Enfin, on le saura lorsque les prochains sondages sortiront.
Ben, vous croyez, si vous me dites que ça risque peut-être de lui amener une certaine forme de sympathie à Ségolène Royal, alors vous avez quand même un exemple peut-être dans le passé qui s'est avéré être similaire au sien, peut-être, je sais pas.
Bah, Ben regardez quelqu'un comme Coluche qui arrivait quand même. Ah mais oui, Coluche arrivait quand même à avoir des intentions de vote à hauteur de 10%. Donc ça prouve bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui cherchent au fond à utiliser leur bulletin de vote comme s'ils étaient les spectateurs d'une comédie. On salue l'artiste, on salue sa performance et on vote pour elle. Ce n'est pas impossible.
OK, et si on regarde ce qu'elle a mentionné là, vous me dites que il y a une femme sur trois qui se font assassiner par leur mari?
Oui, non, elle a complètement, c'est une bourde de sa part.
Mais c'est lamentable.
Au lieu de dire que tous les trois jours, il y avait une femme qui mourait, elle a dit, il y a une femme sur trois qui est tuée par son conjoint. Ce qui a fait rire tout le monde. Mais malheureusement, je vous dis, des choses comme ça aussi stupides, ça peut faire rire des gens, mais ça peut aussi les inciter à voter pour elle par défi, en quelque sorte.
Plusieurs auditeurs me disent, on dirait Star Academy, on vote et c'est tout.
Voilà, mais on lui a demandé aussi combien la France avait de sous-marins nucléaires.
Oui, c'était...
Elle a répondu, un seul. Alors qu'elle est appelée à être commandante en chef de la force nucléaire.
Monsieur Pince, est-ce que la réponse était 7?
Ben, la réponse, en fait, c'est 10. Il y a 4 sous-marins nucléaires qui sont de la force stratégique, okay, c'est-à-dire qui transportent des ogives nucléaires, et il y a 6 sous-marins qui sont des sous-marins nucléaires, mais d'attaque, c'est-à-dire qui sont uniquement pour la protection des côtes ou des escadres.
Alors, elle était loin, parce que, écoutez... Mais...
Elle était loin du compte, oui.
Surtout, moi, parce que j'avais entendu l'interview qu'elle avait donnée à RMC, Radio Monte Carlo, et on voit vraiment, parce que ça a été filmé, on voit vraiment sur son visage, je sais pas, un grand vide, là, quand on lui dit qu'il y en a 10 en tout. Moi, je me suis dit, est-ce qu'on peut accepter qu'un individu qui ne sait pas comment se porte son armée, ou enfin, combien, par exemple, ça a l'air peut-être imbécile ou un détail pour certains, mais je crois que ça va de soi, si on est candidat à la présidentielle, M. Pince, de savoir le nombre d'effectifs que l'on a au niveau de l'armement. Je dis pas à l'unité près, mais quand même, d'avoir au moins un strict minimum.
Oui, mais ça montre aussi, si vous voulez, la déviation de l'opinion, parce que toute la campagne a surtout porté pour le moment sur les bobards climatiques, vous savez, de monsieur Hulot, les histoires de réchauffement climatique. Alors ça, je pense que sur ces sujets-là, elle serait peut-être tout à fait au point, on lui aurait fait beaucoup de fiches, mais comme les questions de défense et de politique étrangère ne sont absolument pas abordées pendant cette campagne, bah évidemment, on ne lui avait pas préparé de fiches, et puis elle a répondu n'importe quoi. Il faut voir, voyez, c'est amusant, dans le monde entier, tout le monde se préoccupe de la situation dans le Golfe Persique. Est-ce qu'il va y avoir la guerre? Qu'est-ce qui va se passer avec l'Iran, etc. Ces problèmes qui concernent la paix et la guerre, et qui sont des problèmes existentiels, mais ne sont pas du tout abordés pendant la campagne.
Ah.
On parle de n'importe quoi, mais pas de ça. On a l'impression que la France est une sorte de planète isolée qui vit dans une autre galaxie, et que tout ce qui peut se passer ailleurs, eh bien, on l'ignore complètement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les bobards de Monsieur Hulot sur le réchauffement climatique, c'est la France métissée, c'est le droit au logement, c'est la solidarité, c'est les mariages homoparentaux, enfin c'est des choses comme ça, vous voyez, des sujets qui sont un petit peu glanés dans l'actualité, des sujets qui flottent à la surface, vous savez, qui montrent un manque de fond chez les candidats qui est tout à fait effrayant.
Et là, Monsieur Pince, on nous demande, Monsieur Pince, président, Monsieur Pince, président, s'il vous plaît. Alors, on voudrait vous présenter aux prochaines élections, on ne sait pas.
Ça m'étonnerait.
Ah, ok, d'accord. On a compris, mais là, je dois tomber sur un sujet qui m'a frappé, c'est de voir à quel point que les journalistes québécois sont très informés, très bien informés sur ce qui se passe en France. Est-ce que vous avez entendu de parler, j'imagine, Monsieur Pince, que vous avez entendu parler de cette loi sur la laïcité qui va être adoptée de votre côté?
C'est une charte sur la laïcité.
Ah, une charte et non une loi, c'est très différent.
C'est pas tout à fait pareil.
Non, c'est vrai.
C'est une charte qui n'a pas un aspect contraignant, mais qui est simplement destinée à être affichée dans tous les lieux publics et à être connue dans tous les lieux publics. Alors, tout cela, ça vient de la situation suivante. C'est lié, évidemment, à l'islamisme. Ce n'est pas, on nous dit la laïcité, moi je dirais plutôt que c'est lié à la défense de la civilisation, purement et simplement. On a commencé donc avec une loi, effectivement, la loi sur le voile pour interdire le port du voile dans les écoles et les lycées. Et depuis, si vous voulez, ce qu'on constate, et ça a fait d'ailleurs la une à plusieurs reprises de l'actualité, c'est de grands désordres au niveau des hôpitaux. Au niveau des hôpitaux, où de plus en plus des gynécologues sont agressés par des islamistes qui ne veulent pas que leurs femmes soient examinées, où de plus en plus des médecins sont obligés de passer ou de perdre leur temps à rédiger des certificats de virginité, ou bien même à faire des réfections d'hymen pour prouver que la jeune fille est vierge, et tout ça sur la pression de plus en plus vive, n'est-ce pas, des islamistes. Alors, au niveau des hôpitaux, les gens en ont par-dessus la tête, que ce soit les chirurgiens, que ce soit les sages-femmes, que ce soit les anesthésistes, et il est apparu donc la nécessité, aussi bien pour les hôpitaux, mais pour tous les autres lieux publics, de faire une charte pour rappeler que dans l'espace public, lorsqu'on s'adresse à un agent public, on n'a pas à imposer ses convictions religieuses, et qu'on n'a pas à dire « je veux être soigné par un homme plutôt que par une femme » ou « par une femme plutôt que par un homme » ou « à demander à être dans un endroit où on ne vous voit pas » ou « à demander à être opéré en portant la burqa et en évitant que » etc. Enfin, cela, on appelle ça la laïcité contre l'intégrisme.
Alors,
moi, je dis plutôt que c'est la civilisation contre la barbarie.
Alors, Monsieur Pince,
cette barbarie, elle se répand partout.
Monsieur Pince,
dans les lycées, les hôpitaux, les discothèques, etc.
Oui. Monsieur Pince, dites-moi, est-ce que les journalistes que j'ai entendus aujourd'hui dire que la France a compris avec cette fameuse... parce que, savez-vous quoi, ils ont mentionné le mot « loi », « loi de, sur la laïcité », et vous me dites que c'est une charte, c'est très différent.
Ah non, il y a une loi, si vous voulez, là, ce qu'on sort actuellement, c'est une charte.
Aha.
Mais la laïcité fait déjà l'objet de la loi de 1905, à laquelle la Constitution fait référence, et qui en soi devrait être d'ailleurs suffisante. Mais comme cette loi est générale, elle a besoin d'être précisée ou d'être rappelée de temps en temps, et donc cette charte, qui est destinée à être affichée dans tous les lieux publics, doit rappeler aux chefs d'établissement, aux chefs d'hôpitaux, aux directeurs de lycée, aux directeurs, etc., de tous les établissements publics, quelles sont, dans quelles conditions doivent se dérouler l'accueil du public et le comportement du public, ce que les usagers doivent... comment ils doivent se comporter vis-à-vis des agents publics, parce qu'il y a de plus en plus d'incidents, ça multiplie. Je ne sais pas si au Canada c'est la même chose, et si vous avez au niveau des hôpitaux ou des maternités de mêmes exigences de la part du public musulman qui refuse que les femmes soient examinées par des médecins, ou bien qui refuse que les gens subissent une césarienne, etc., etc. C'est un phénomène qui devient extrêmement fréquent en France.
C'est je vous dirais que oui, ça se fait, mais les médias n'en parlent pas. Hein? Les médias ici se taisent, ne veulent pas non plus alerter la population. Hey, attention, faites gaffe, on est en train de... Non. Les médias, je les trouve un peu hypocrites, Monsieur Pince. Malheureusement, au Canada, ils sont comme ça, malheureusement. ne s'attaquent pas aux vraies choses, vont plutôt s'attaquer, par exemple, aux chiens écrasés par un véhicule sur le coin d'une autoroute. Ça, ils vont faire du sensationnalisme là-dessus. Ils vont s'attaquer vraiment sur la nouvelle. Ils vont vraiment explorer le cadavre du chien sur la route, écrasé par un véhicule, par un chauffeur peut-être ivre. Ils vont vraiment décortiquer la nouvelle comme ça, hein?
Mais c'est pareil en France, hein, c'est pareil. Ce n'est que des chiens écrasés, des affaires de chiens écrasés, des nouvelles, des faits divers qui sont absolument insignifiants.
Exact.
On met ça tout le temps en premier plan et les affaires importantes qui témoignent du malaise qui existe dans notre société, on évite d'en parler le moins possible.
Alors êtes-vous d'accord avec les propos des journalistes disant que la France a compris avec cette fameuse charte, a compris bien plus que nous, ici, les Québécois?
Ah, écoutez, ça, c'est difficile parce que je ne peux pas me prononcer là-dessus dans la mesure où je ne connais pas exactement votre corpus de loi au Canada. J'ai l'impression qu'effectivement, nous avons en France, et par rapport pas seulement aux pays anglo-saxons comme le Canada, les États-Unis ou la Grande-Bretagne, mais même par rapport aux autres pays, nous avons cette conception de la laïcité qui est propre à l'État français et qui date au fond des grands conflits qu'il y a eu entre l'Église catholique et le pouvoir républicain. C'est à partir de là que se sont créées ces lois de 1905, qui jouent en particulier un rôle très important au niveau du financement des cultes, puisqu'en principe, aucune contribution publique ne doit venir subventionner un culte quelconque. La République reconnaît l'exercice de tous les cultes, mais elle n'en finance aucun, elle n'en privilégie aucun, et par conséquent, maintenant, avec l'arrivée de l'islam, il paraît nécessaire de préciser aussi que les manifestations intempestives n'ont pas lieu d'être dans les espaces publics qui doivent rester le plus neutre possible. Alors ça, c'est quelque chose qui, je crois, est spécifique à la France et qui constitue quand même notre principal barrage, il faut bien dire, notre principal barrage contre l'islamisme actuel.
Ok. Parce que je vous conte une histoire qui vient de se produire. Il y a un petit village nommé Hérouville, Monsieur Pince, toujours dans la même veine, concernant ces fameux accommodements raisonnables, ou enfin, je devrais appeler déraisonnables. Et c'est drôle, Monsieur Pince, c'est toujours deux communautés en particulier. C'est jamais la communauté haïtienne, d'accord? C'est jamais la communauté mexicaine, antillaise. Attendez, là, c'est jamais la communauté, je pourrais prendre, je sais pas, japonaise, chinoise. C'est jamais ces communautés-là. Et sans vraiment toutes les nommer, mais c'est toujours deux communautés ici qu'on remarque souvent qu'ils ont besoin d'un petit peu plus que les autres pour qu'on a besoin d'accommoder Monsieur Pince. Et c'est pas de la discrimination que je veux essayer de faire, ou c'est pas du racisme ou quoi que ce soit, mais ça revient toujours aux musulmans, la communauté musulmane, Monsieur Pince, et aussi la communauté juive. Malheureusement, et il y a un petit village qui est nommé Hérouville, qui ont décidé de faire leurs propres règles. Ici, c'est une communauté laïque, point à la ligne. Aucun accommodement raisonnable par rapport à la religion ne sera toléré. Et ici, ça fait terrible ici là, en ce moment.
Ah, ça c'est curieux, parce que Hérouville, c'est amusant, c'est le nom d'une commune de Normandie. Nous avons aussi en Normandie un Hérouville, ou une ville qui s'appelle comme ça. Et la position que vient de prendre votre commune est au fond conforme à ce que serait la laïcité appliquée dans toute sa rigueur en France. C'est-à-dire qu'une commune n'a à avoir aucun accommodement avec une religion quelle qu'elle soit. Et en particulier, on ne doit pas financer des constructions d'églises ou des constructions de mosquées. Il n'y a pas de financement possible pour cela. Et d'une manière générale, les règles de la laïcité doivent s'appliquer dans tous les espaces publics, c'est-à-dire la neutralité absolue en matière de religion. La conception française, si vous voulez, de la laïcité, c'est que la religion est purement une affaire privée. Vous faites ce que vous voulez quand vous êtes chez vous, mais à l'extérieur, vous n'avez pas à vous comporter d'une manière singulière et qui pourrait porter, qui pourrait gêner, si vous voulez, ou porter atteinte aux autres.
Parce que en ce moment, ils vont à l'encontre de la Charte des droits et libertés du Canada. Par exemple,
oui, je comprends bien.
Tout à fait. Alors, par exemple, le Kirpan a été adopté ici. Les gens ont le droit qui ont le droit de porter le Kirpan sur eux en tout temps, peu importe à l'école, non, partout. Mais par contre, Hérouville, elle empêcherait ça. Mais techniquement parlant, ils n'ont pas le droit de l'empêcher. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on met sous scellé, je sais pas comment dire cela, Monsieur Pince, mais est-ce qu'on met sous clé où on fait un siège cette ville de 1300 âmes? Est-ce qu'on fait un siège à cette ville? Dites-moi, est-ce que de votre côté...
Je crois que vos habitants d'Hérouville me sont plutôt satiques, parce que je pense
oui.
que... Ah oui, moi je pense que des pays comme le Canada, ou c'est vrai aussi pour le Royaume-Uni et aux États-Unis, c'est vrai que vous avez une tolérance religieuse extrêmement grande qui vient à votre histoire, mais malheureusement, face à l'islam, c'est quelque chose de nouveau, c'est un phénomène tout à fait nouveau qui n'existait pas dans nos sociétés, et votre tolérance, d'une certaine manière, vous désarme, parce que vous allez avoir partout des gens qui vont se promener en burqa, qui vont se promener, et ça c'est intolérable, c'est attentatoire à la dignité de la femme, c'est attentatoire même à la sécurité, puisqu'il faut bien savoir quand même voir le visage des gens quand on les opère, ou pour savoir quelle est leur situation même sur le plan sanitaire. Il faut bien, quand les gens passent les contrôles en aéroport, qu'on sache bien si on a affaire à une femme ou un homme. Il faut donc bien que les gens ne soient pas complètement voilés, et donc ça, ce sont des mesures qui sont nécessaires, je crois, dans tous nos pays. Il me semble, pour ma part, que les pays de tradition, disons, très libérale dans ce domaine religieux, devraient penser à reconsidérer un petit peu leur pratique compte tenu de l'islamisme. Moi, pour ma part, d'ailleurs, je considère que le voile, par exemple, le voile islamique, ce n'est pas un signe religieux, de mon point de vue. De mon point de vue, parce que dans le temps, beaucoup de femmes ne portaient pas le voile. Et en Tunisie, par exemple, la plupart des femmes ne portent pas le voile. Le port du voile, ça signifie qu'on se reconnaît dans l'intégrisme islamique. C'est-à-dire dans ceux qui forment le terreau du terrorisme.
Ah, tiens donc.
Donc, pour moi, je considère que le voile, c'est le drapeau de l'islamisme radical, et que dans ces conditions, il devrait être interdit. Purement et simplement. Alors, ce n'est pas le cas en France. Les gens peuvent être voilés dans l'espace public, mais à condition que ce soit d'une manière modérée, qu'ils enlèvent leur voile lorsqu'ils prennent leur photo d'identité ou des choses comme ça. Mais pour ma part, je serais partisan d'une interdiction totale.
Vous savez, on a eu une super de belle nouvelle aujourd'hui qui nous est tombée dans les mains, Monsieur Pince. Des congés qui suscitent la grogne. J'aimerais savoir, est-ce qu'en France, il y a ce genre de congés-là? C'est-à-dire, les employés juifs et musulmans de la commission scolaire ici à Montréal ont droit à des congés payés supplémentaires lors de fêtes religieuses. C'est-à-dire que moi, je suis pas un juif, je suis pas un musulman, j'ai les mêmes congés que monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire Pâques, Noël, ce genre de trucs. Et eux, par contre, ont, pour les accommoder... Des jours de et c'est parce que je suis un contribuable, Monsieur Pince, là, faut pas oublier ça, on est des contribuables, et on paie en réalité pour leurs jours de congés supplémentaires contrairement aux autres. Est-ce que vous avez ce genre de congés là de votre côté?
Alors non, justement, ça c'est une revendication qui existe aussi en France de la part des musulmans intégristes.
Ah.
C'est que les jours de la religion musulmane deviennent des jours, disons, chômés, comme Noël, comme Pâques, etc. Et là, actuellement, en France, ces pratiques ou ces accommodements, comme vous dites, n'existent absolument pas. Et je pense que la charte de la laïcité qu'on vient d'adopter est justement destinée à nous prémunir contre ces dérives, parce qu'il n'y a pas de limite. Écoutez, il faut pas exagérer quand même. Ces gens-là, ils viennent chez nous, hein, on leur a pas demandé de venir. C'est pas à eux c'est pas à eux de nous imposer leurs mœurs, leurs habitudes, etc. Donc, non, moi je suis tout à fait opposé, et la majorité des Français aussi d'ailleurs, du moins je l'espère, à de tels accommodements. Mais chez nous aussi, nous avons des pressions dans ce sens. Il y a des pressions de la part des islamistes pour qu'on leur reconnaisse des jours, pour qu'on leur donne des temps libres dans les entreprises pour faire leurs prières, pour qu'ils aient, par exemple, des salles de prière spéciales un peu partout. Et cela, c'est pas tolérable. Hein, si on veut avoir des salles de prière, si on veut avoir des jours chômés, ben, il fallait pas venir en France, il fallait aller en Arabie Saoudite, c'est tout.
Monsieur Pince, là, moi et mes amis, ce matin, on a décidé de partir une nouvelle religion, la religion du papillon bleu. Et, oui. Et ben oui, tout à fait, j'aimerais ça vous inviter dans ce nouveau cercle qui recueille la bonne nouvelle, la bonne humeur et tout. Mais par contre, dans la religion du papillon bleu, monsieur Pince, vous allez trouver ça très intéressant pour vos poches, bien sûr, avant tout, c'est que elle nous interdit de payer des impôts.
Ah, ben ça, c'est encore mieux, oui. Alors là, je vais y adhérer tout de suite. Hein. Ça, c'est très bien. Mais vous avez raison. Il n'y a pas de raison. On va tous créer... Tout le monde peut créer une religion. C'est pas difficile.
Ben non.
On va créer une religion à 3 ou 4 personnes et puis on va demander des droits particuliers. Non, mais vous voyez, tout ça n'est pas sérieux. Vous comprenez, tout ça n'est pas sérieux.
Exact.
Je crois qu'il faut pas du tout que nos démocraties se laissent entraîner dans ce genre de choses. Pas du tout. Il n'en est pas question. Vous êtes Canadien, vous avez vos traditions. Ces traditions, elles existent. Elles sont propres au Canada, vos traditions, ce ne sont pas celles du Moyen-Orient. Point très, c'est tout. Les gens qui viennent chez vous, ils adoptent vos traditions et ils ne sont pas là pour imposer les leurs. C'est aussi simple que cela.
Je veux revenir sur cette fameuse charte, monsieur Pince, concernant la France. Est-ce que vous croyez que ça va peut-être améliorer un peu la qualité de vie des Français de souche, monsieur Pince, sincèrement?
Je pense que ça peut au moins ralentir la détérioration.
Okay.
Je crois, à mon avis, simplement, ce n'est pas suffisant. Comme je vous dis, ce n'est pas suffisant. Mais c'est un pas dans la bonne direction. C'est un pas dans la bonne direction. Il faudrait qu'on ait des mesures encore plus draconiennes. Mais malheureusement, il y a même en France beaucoup de gens qui s'opposent à ces chartes, vous savez. C'est là toute l'ambiguïté. Au niveau de l'Église catholique, les catholiques très pratiquants, si vous voulez, sont souvent heurtés par ces lois de la laïcité, qu'il faut bien le dire, d'ailleurs, historiquement, avaient été créées et instituées contre eux, à l'origine. Hein. Et donc, ils ont tendance, parfois, à faire cause commune avec les musulmans, en se disant, bah, si les musulmans obtiennent ça, peut-être que nous, catholiques, on pourra aussi obtenir quelque chose et revenir un petit peu en arrière. Alors, vous voyez, c'est ça qui est dramatique, c'est que ça amène évidemment des surenchères, et de mon point de vue, en tant que républicain, je pense que tout cela est inadmissible. Et ce qui est amusant, vous voyez, c'est que depuis le début de notre entretien, nous parlons de religion.
Et voilà.
Est-ce que vous trouvez que c'est normal, au 21e siècle,
non,
de passer notre temps à parler de religion? Eh bien, ça, c'est aussi une conséquence de l'islamisme et de l'arrivée de l'islam dans nos sociétés.
Monsieur Pince...
Moi, je dis toujours, on retourne au Moyen-Âge.
Voilà. Exactement. Monsieur Pince, j'ai 29 ans. Moi, je vous écoute parce que, d'une certaine façon, vous avez l'expérience. Moi, je vous perçois comme un maître. Et moi, l'élève, j'écoute ce que vous me dites. Et ça me fait rire, ça me fait sourire de parler de religion en ce 21e siècle. J'ai l'impression de régresser comme du temps de mes grands-parents. Où est-ce que le curé ou le prêtre allait voir Madame Tremblay? Vous avez pas fait assez d'enfants cette année. Le Seigneur vous accueillera pas au paradis. Écoutez, ça a pas de sens, là. Ça a pas de sens, le sentiment que j'ai, moi, en tant que jeune homme qui essaie de faire en sorte que le monde dans lequel on vit soit un peu meilleur. Je dis bien un peu. Mais là, avec, justement, comme on en a parlé, la tolérance. Parce que les Français aussi c'est des êtres, je considère, très tolérants. Mais là, la soupape des Français, elle va exploser, là. Elle va complètement exploser. Et il y a aucun parti qui prend le leadership, de votre côté, il dit non, et là, c'est assez. C'est assez, là.
Disons que quand même tous les partis sont un peu sensibles, mais en même temps c'est tout.
Mais c'est pas assez, Monsieur Pince.
Ils ne veulent pas froisser les musulmans, ils ne veulent pas avoir l'air d'être politiquement incorrect. Donc c'est toujours je fais un pas en avant et deux pas en arrière. C'est un peu toujours de la même façon. Hein, c'est très hésitant. C'est une marche hésitante. Et là où il faudrait au contraire beaucoup de conviction, beaucoup de fermeté, en disant les règles du jeu en France, c'est ça et c'est pas autrement. Et ceux qui ne sont pas contents, dehors. Voilà, c'est tout. Ça se résume en trois mots.
Il y a un policier, Monsieur Pince, et je vais vous envoyer la cote audio par email. Ça va vous faire sourire. Un policier qui est à deux doigts de se faire mettre à la porte pour une chanson sur les accommodements raisonnables. Et il exprime ceci, c'est que si vous n'êtes pas content, retournez chez vous et vous allez vous apercevoir que chez vous, c'était pas mieux. Si vous êtes venu ici, ça veut dire que c'est pour une raison. C'est sûrement pas parce que c'est pour reproduire le même contexte dans lequel vous habitiez là-bas, j'imagine.
Bien sûr. Et vous savez ce qui est tout à fait remarquable, c'est que la régression, elle se passe aussi au niveau des communautés musulmanes. Par exemple, les incidents que j'évoquais tout à l'heure, oui, ces questions, oui, à la maternité ou à l'hôpital, ça ne s'est jamais passé avec les premières générations de migrants.
Étrange.
Jamais dans les années 60, 70, etc., ce genre de phénomène ne se produisait pas. Ce sont donc des phénomènes qui sont beaucoup plus récents et qui sont liés partout dans le monde, en France, en Europe et partout, à la montée de l'islamisme radical et au fait que, contrairement à tout ce qu'on nous raconte au titre de la désinformation, cela tient au fait que cet islamisme radical est devenu majoritaire dans le cœur et dans les esprits des populations musulmanes. C'est ça, malheureusement, la triste vérité.
Est-ce que ce sera le cheval de bataille de Ségolène Royal, Monsieur Pince?
Je ne crois pas. Je d'ailleurs, parler d'un cheval de bataille pour elle, je crois qu'il vaut mieux parler d'un âne. Mais enfin, mais de toute façon, je ne crois pas. Je ne peux pas, vous savez, avec elle faire des prévisions. Hein. Nous sommes en pleine. Je pense que maintenant, elle va bientôt sortir de son piquet, Monsieur Montebourg. Vous savez, son porte-parole qu'elle avait mis au piquet. Elle a trouvé avec elle aussi Madame Taubira, qui est la grande prêtresse de la repentance en tout genre. Donc à eux trois, ils vont faire un bon trio, les Marx Brothers, et un de ces jours, ça va se terminer par des batailles de tarte à la crème.
Monsieur Pince, on se reparle dans 15 jours.
Oui, entendu.
C'est très intéressant et aussi très dynamique. Merci, Monsieur Pince, de votre temps si précieux.
Merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir. Alors, c'était Gérard Pince que vous venez tout juste d'entendre. Nous, on s'arrête un tout petit instant, on bat des derrière. C'est pas terminé pour ce qui est de Wake Up. Non, on reste là en forme. C'est comme ça que ça fonctionne.
Rockkick.com